Notre spirituel aujourd'hui, une émission très particulière qui peut vous étonner, c'est la vie de Sulpice Sévère. Il y a eu quelques Sulpice Sévère à peu près au même temps, un siècle ou deux après, qui ont été canonisés. Ce sont des saints Sulpice Sévère, finalement, étrange nom, n'est-ce pas? Et c'était des évêques. Lui, c'était un homme marié, un historien ecclésiastique. Il a écrit, imaginé l'histoire du monde jusqu'à son époque, jusque vers l'an 400. C'est un homme de très grande envergure qui a malheureusement été oublié, mais qui est connu d'une autre façon parce que c'est lui qui a écrit cette admirable vie de Saint-Martin de Tours. Saint-Martin qui a été très connu pendant des siècles jusqu'à aujourd'hui. Il était le saint, pour ainsi dire, en particulier en France et dans une grande partie de l'Europe, le saint le plus populaire. Vous savez pourquoi? On sait tous que Saint-Martin, ou à peu près on sait tous, que Saint-Martin, c'est cet homme extraordinaire, à cheval, un officier de l'armée romaine qui porte un manteau, qu'on appelle une chlamyde, et puis qui rencontre un pauvre. Il est terrifié de la pauvreté de cet homme qui n'a rien à se mettre sur lui. Et il prend son épée et il coupe son manteau en deux et lui donne la moitié. Et on a toujours raconté cette histoire à travers les siècles des millions et des millions de fois pour, on pourrait dire, symboliser la charité chrétienne qui donne la moitié de ce qu'il possède, où on donne la moitié de ce qu'on possède pour soulager les pauvres. C'est une histoire que l'on retrouve partout, mais souvent on ne sait rien d'autre sur Saint-Martin. Alors en vous parlant de Sulpice Sévère, je vais en même temps vous parler de Saint-Martin. Je signale comme ça pour le plaisir de la chose que j'ai toujours eu dans ma bibliothèque depuis bien longtemps un ouvrage magnifique, relié en peau de velin, avec des armoiries. C'est un livre superbe. C'est l'un des plus beaux livres de ma bibliothèque, livre ancien du XVIIe siècle. Et ce sont les œuvres complètes de Sulpice Sévère, parues il n'y a pas si longtemps finalement, 1647. Donc, ça fait 350 ans. Mais il y a une très belle gravure en frontispice, et ça m'a toujours fasciné, mais je peux pas le lire, c'est en latin et en grec. C'est qu'il a écrit en latin. Et il a été un best-seller, ce Sulpice Sévère. Oui, son livre a été le livre le plus lu, le plus copié, le plus répandu. Son livre sur Saint-Martin. C'est pas rien qu'un livre, c'est trois livres, en fait. Et quand on parle de Saint-Martin, qu'est-ce qu'on peut raconter? Si on demande à l'homme de la rue, à n'importe qui est Saint-Martin, il vous dira, évidemment, que ce que je viens de vous dire, c'est le saint qui a donné la moitié de son manteau à un pauvre diable. Bon. Mais que savons-nous de plus de sa vie puis du rôle de Saint-Martin? C'est une vie extraordinaire qui nous a été racontée par Sulpice Sévère. Rien, vraiment rien, hein, on sait rien. Je vous en ai parlé de Saint-Martin le 11 novembre 1996. Et j'y reviendrai sans doute l'an prochain, ou plutôt cette année au mois de novembre. Les chrétiens ont oublié ce saint populaire. Savez-vous qu'en France, on dit qu'il y a environ 5 villages qui s'appellent Saint-Martin. C'est exagéré. Je crois que d'après les études officielles, là, c'est 382 ou quelque chose comme ça. Ici, au Québec, on a un Saint-Martin. En tous les cas, c'est à 19 kilomètres de Saint-Georges-de-Beauce, sur la Chaudière, hein, sur la rivière La Chaudière. Alors, comme on ne sait pas grand-chose de ce saint si populaire, qu'on a mis au nombre des 14 saints auxiliaires, c'était une façon de qualifier les 14 saints les plus populaires, en l'honneur desquels, on a construit, comme je vous ai dit, d'innombrables églises. Les chrétiens en Europe, surtout en France, l'ont vénéré dans toutes sortes de coutumes, même folkloriques, des processions, toutes sortes de manifestations. Et, avec le 20e siècle, évidemment, il est devenu un personnage à peu près inconnu. C'est un peu ce qu'on vient de vous raconter à l'émission. de l'abbé Bertrand, hein? Le christianisme qui, on dirait, disparaît. C'est ce qu'on essaie de faire à Radio Ville-Marie, non pas de le faire disparaître, mais de le faire revivre. Parce que c'est magnifique, le christianisme, rien de plus beau sur la terre, à mon avis. Et les gens aujourd'hui savent à peine à quel siècle il a vécu. Puis mis à part l'épisode du manteau dont je viens de vous parler, là, ben les gens seraient bien en peine d'évoquer une image concrète de ce grand personnage qu'est Saint-Martin, et à plus forte raison de celui qui l'a fait connaître, Sulpice Sévère. En guise d'excuse, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut mettre ça au compte d'une petite lacune dans la formation que l'on donne à nos jeunes? Bah, non. Faut être clair, c'est une ignorance qui est une honte, finalement. Et on oublie les gens les plus importants de notre histoire pour s'attacher à ceux qui ont tué beaucoup de monde. Des rois, des seigneurs, des assassins, des mécréants. Et les saints? Ah! Me semble qu'un lecteur, je dirais qu'il est bien élevé, là, devrait se sentir choqué par cette expression spontanée, mais la bouche parle de l'abondance du cœur, devrait être choqué, oui. C'est que, me semble que, quand on se fâche un peu contre tout ça, ça peut peut-être changer les choses. Les gens prétendument cultivés sont souvent, au fond, à mon avis, des gens qui n'en ont pas beaucoup de cette véritable culture qui fait que les hommes sont debout et les femmes debout, et qu'ils se réjouissent d'appartenir à cette humanité remarquable qu'a fourni tant de gens extraordinaires, dont nous essayons à Radio Ville-Marie de parler, en particulier à cette émission Rencontre spirituelle. Sur n'importe quelle marque d'automobile, les gens peuvent parler longtemps, hein? En particulier les automobiles de course. On parle très longtemps de Wayne Gretzky, qui est un homme noble, un joueur de hockey admirable. Mais grand Dieu, c'est un joueur de hockey. On parle des problèmes de diététique. Regardez l'émission très populaire de Daniel Pinard le vendredi soir, hein? Très populaire, mais c'est plutôt le problème de cuisine et de bonne cuisine. Mais ça, on peut pérorer et parler très longtemps de ça, et c'est pas mauvais, il faut bien parler de toutes sortes de choses, on peut pas parler toujours des choses les plus sérieuses. Mais les gens ne conversent plus que des heures durant de ces choses et ne savent rien d'autre, on dirait. Comme l'une des plus grandes figures de la sainteté, ils ne connaissent rien de plus qu'un enfant du cours élémentaire. C'est un saint, qui a donné la moitié de son manteau à un pauvre diable, et ça finit là. Pourquoi cette ignorance? C'est parce qu'il n'existe peut-être aucune bonne biographie contemporaine de Saint-Martin, mais c'est faux. J'en ai d'excellentes. Ou parce qu'on s'intéresse à tout, sauf aux saints. Prenez ces belles biographies. Je pense à celle qui a été publiée en 1960. Bon, vous direz, ça fait trop longtemps, par le Club chrétien, qui existait en France et à Montréal. À Montréal, l'adresse était 40 rue Molière, Montréal 10. C'était le code postal dans ce temps-là, Montréal 10. C'est la vie de Saint-Martin, avec 76 dessins actuels du frère Louis de Ligugé, de l'abbaye de Ligugé. Cette abbaye qui date d'avant les bénédictins, où il y a toujours des bénédictins. Et c'est sur un texte ancien, c'est-à-dire sur le texte de Sulpice Sévère, avec des dessins admirables, magnifiquement reliés. Mais savez-vous qu'il y a une vie de Saint-Martin écrite comme ça, Martin et le pauvre, de Félix-Antoine Savard? Admirable, admirable. Et je vous lis justement le récit du manteau. C'est à la page 45 de ce beau livre étudié et publié par Fides, à Montréal et à Paris, raison de 5000 exemplaires. La Sainte Nuit était descendue, la nuit Noël. La Sainte Nuit était descendue, écrit Félix-Antoine Savard. Et là-haut, le ciel splendide et recueilli faisait mémoire, oui, tout le ciel, avec toutes ses étoiles ensemble. Les grandes dignitaires du nombre, du poids et de la mesure, et celle-là plus condescendante des rois, l'étoile des rois, fixé sur l'Orient comme un témoin de saphir. Et une multitude d'autres, jeunes de quelques siècles à peine, ou cachés encore dans la grâce des temps. Ah! Oh, il était bon d'avoir sa tête dans la divine liqueur de cette lumière, et dans la musique de cette liturgie. Bon de jouir d'une parfaite et calme intégrité dans la vivante chaleur de sa jeunesse. Et de quel manteau! Et Martin s'avançait lentement, ainsi sur la route qui mène d'Amiens à Corniliacum. Et son cœur palpitait dans une solennelle effusion et dans un grand désir du Christ, lorsqu'à la porte d'Écumane, tout à coup, son cheval fit un écart. À gauche, au bord du chemin, une forme s'était dressée. Martin se pencha. « Qui es-tu ? » « J'ai froid. »« Que me veux-tu ? » reprit Martin, avec douceur. Et sa main tremblante s'était déjà portée sur l'épaule nue du malheureux. « J'ai froid. » répéta l'homme qui avait saisi le bord du manteau et se collait fiévreusement le long de la bête chaude. « J'ai froid. » Comme si sa bouche se fût raidie pour toujours dans ses derniers mots. Son visage seul implorait maintenant, et ses yeux surtout, de grands yeux, où toutes les clartés du ciel semblaient se figer et s'éteindre. Martin eut une hésitation qui lui parut longue comme l'avenir. Puis, d'un geste décisif, il sortit son épée et coupa son manteau. Se penchant alors avec tendresse, il en couvrit les épaules du mendiant. Et tout disparut dans le noir. Martin, lui, est resté quelque temps sur place. Et comme s'il avait perdu son bel équilibre, puis il a repris sa route. Mais à son côté gauche se vide. Cela lui cause une étrange sensation, froide et douce à la fois. Et par moments, il lui semble qu'avec lui, en selle, il y a un mystérieux personnage qui serait fait de son flanc qu'il a dénudé, et de ce flanc du pauvre qu'il a revêtu. Et les cœurs sont si près l'un de l'autre qu'ils dialoguent ineffablement. C'est du Félix-Antoine Savard. Ce petit livre admirable qui m'est très précieux date non pas de 1960 comme l'autre, mais de 1959. C'était les dernières années où il semble qu'on s'intéressait à Saint-Martin. Mais on en a écrit d'autres, de beaux livres sur Saint-Martin. Très beaux comme le Martin de Tours. Un évêque qui marque son époque. Paru, celui-là, en 1977. Oh, magnifique livre, magnifique livre. Avec des extraits de la vie de Saint-Martin et de Saint-Sulpice aux éditions du Centurion, avec des illustrations en couleurs superbes, extraordinaires. On en fait encore. Parce que Saint-Martin et Sulpice Sévère ne sont quand même pas totalement oubliés. Heureusement. Qu'est-ce qu'on peut raconter? Qu'est-ce qu'on peut raconter sur ce cher Saint-Martin? Bien des choses. Mais avant de commencer à vous parler surtout de Sulpice Sévère, l'auteur de sa vie, on pourrait citer un mot de Hans-Urs von Balthasar, qui porte bien à réfléchir sur ces vies de saints que je vous raconte ici assez souvent et presque tous les jours. Nous sommes rendus à 830, 840, je ne sais plus combien j'en ai fait, là. Il dit, ce n'est pas seulement la vénération des saints, dit Hans-Urs von Balthasar. Hein. Ce n'est pas seulement la vénération des saints, mais surtout la connaissance que nous avons d'eux, qui, un peu partout dans le monde, est vouée à une rapide disparition. On fait peu de choses pour maintenir dans sa fraîcheur la mémoire du peuple. Même si elles étaient encore disponibles, les anciennes biographies des saints ne suffiraient pas aux chrétiens d'aujourd'hui ou de demain. Il s'explique là-dessus, il dit « Le paravent artistique dont les entourait la géographie baroque, la géographie c'est les vies de saints, hein, et la géographie baroque et saint-sulpicienne, hein, c'est tellement mielleux les vies de saints, moi j'en lis des fois, je peux pas souffrir de lire ça. » Je les lis, mais je les réécris pour vous les donner, parce qu'il faut tout transformer, tout le vocabulaire, les phrases, tout ce qui est dit, sans changer le sens, mais pour que ça devienne aussi moderne que je suis capable de le faire à mon âge. Alors, tout ça, cette espèce de paravent artistique, dit Balthazar, espèce de climat dans lequel c'est écrit, là, les a détachés des hommes d'aujourd'hui. On peut plus lire ça. Même celles qui ont été écrites il n'y a pas longtemps. Je lisais hier une biographie écrite par Thomas Merton alors qu'il était encore au noviciat. Mais c'est illisible. C'est écrit dans un style justement Saint-Sulpicien, épouvantable. Thomas Merton n'avait pas encore acquis le ton et la façon de parler aux gens d'aujourd'hui. La traduction qui en a été faite par une carmélite qui a essayé de corriger ça, mais n'y est pas parvenue, complètement loin de là. À l'avenir, le portrait du saint, dit Hans-Urs von Balthasar, devra non pas seulement pour répondre aux besoins de nos contemporains, mais pour qu'on corresponde à la vérité profonde de la révélation, être recréé de telle façon que les saints vivent comme autrefois avec nous, près de nous, pour nous, en nous. Comme les meilleurs protecteurs et éveilleurs de la sainte communauté de l'Église. Les phrases de Balthasar parlent d'elles-mêmes, il me semble. Il faut que les saints soient avec nous, en nous, pour nous, près de nous. Si nous voulons que les saints recommencent à nous inquiéter, si les saints, il ne s'agit pas de les connaître simplement pour le plaisir de les connaître, il ne faut pas nécessairement les adapter à la mentalité de l'homme moderne, ce qui nous conduirait à des falsifications. Je ne veux pas, moi, falsifier la vie des saints. C'est à l'inverse qu'il nous faut procéder. Prenons doucement cet homme d'aujourd'hui, me semble, par la main. Il faut le conduire devant une image de saint afin qu'il puisse la contempler sérieusement puis sans préjugés. Il faut demander aux gens de pas se contenter d'accorder à ce saint un coup d'œil furtif en se disant « bah voilà, puis on s'en va ». Mais au contraire, il faut s'attarder devant le saint. J'ai la chance, étant donné le travail que je m'impose pour vous faire ces émissions tous les jours, de lire et de relire et de relire des vies saints, la vie du même saint, pour pouvoir finalement vous le donner, j'espère, ce qu'il y a de plus intéressant. Il faut donc s'attarder devant lui jusqu'à ce qu'il reçoive, jusqu'à ce qu'on reçoive, comme des signes de feu, dit un auteur. C'est ce qu'on reçoit quand on lit la vie de Saint-Martin par ce bon Sulpice Sévère. Mais qui est ce Sulpice Sévère, hein? Dans une lettre adressée au printemps de 397, c'est pas d'aujourd'hui, hein? Calculez combien ça fait de temps. My God. Cette lettre est adressée à Sulpice Sévère. Et puis, dans la lettre, l'auteur accuse réception de la vie de Saint-Martin. Qui est l'auteur de la lettre? C'est quelqu'un dont je vous ai déjà parlé, Saint-Paulin de Nol, grand ami de Sulpice Sévère. Ils ont été élevés, pour ainsi dire, presque ensemble à Bordeaux. En France, oui, des Français, pour ainsi dire. Puis, il décerne à son ami Sulpice Sévère un éloge éclatant. Un biographe qui reçoit ça peut être très fier. La fierté n'est pas une mauvaise chose, c'est l'orgueil qui est affreux. La fierté, ça rend à Dieu hommage, en disant « Seigneur, c'est formidable, c'est un peu comme Wayne Gretzky, prenons l'exemple du jour. Tous ses talents, il est dans l'humilité, il reconnaît que c'est des dons, il est simple. Et je crois qu'il nous donne un bon exemple, et il n'est pas le seul, c'est plein d'exemples. Roser Morin, qui vient de mourir, était comme ça, un homme qui a rendu de grands services au Québec par des études fantastiques, extraordinaires sur le plan sociologique et économique, et qui était très humble. Les funérailles viennent d'avoir lieu. Un homme énorme, immense, par son humilité et son dévouement. Et le Paulin de Nol écrit « Bienheureux Martin, pour avoir mérité un historien comme Sulpice Sévère, digne de sa foi et de sa vie. Il se trouvait ainsi doublement consacré à la gloire divine par ses mérites, à la mémoire des hommes par tes écrits. » Alors, c'est une rencontre exceptionnelle, c'est vrai, hein, puisque le talent littéraire de Sulpice Sévère n'est pas inférieur à la grandeur de Saint-Martin, qui est un héros, héros qu'il avait choisi de célébrer dans ses œuvres. Sulpicius Severus, ou Sulpice Sévère, est né vers les années 360 en Aquitaine. L'Aquitaine, c'est dans le sud de la France, dans la région de Toulouse. C'était à l'époque l'Empire romain. Le caractère chrétien va s'affirmant dans cet empire depuis qu'en 313, donc un peu plus de 40 ans plus tôt, 45 ans plus tôt, Constantin et Licinius, là, deux empereurs réunis à Milan, ont mis fin aux persécutions en proclamant la liberté des cultes. Et là, le christianisme bénéficie de la part des empereurs, tous convertis personnellement à l'exception de l'empereur Julien, d'une politique en faveur du christianisme, vraiment. Puis ils accordent beaucoup, beaucoup de dons puis d'aide au christianisme. Pour parachever toute cette évolution, il y a Théodose qui prend entre l'an 380 et 392, au moment où Sulpice Sévère et Martin sont en pleine gloire, bien une série de mesures qui font de la religion chrétienne la religion officielle de l'Empire. Par sa naissance, Sulpice Sévère appartient plus particulièrement, on pourrait dire, à l'aristocratie. Il fait partie, disons, du groupe des sénateurs. En cette deuxième moitié, donc, du IVe siècle, les membres de cette élite, du monde romain, là, qui sont restés longtemps en majorité des adeptes du paganisme, sont de plus en plus nombreux à se convertir au catholicisme. Je dis au catholicisme parce que, bon, les papes sont installés. Il est difficile de ne pas dire catholique. Si l'Église catholique, qu'on dise ce qu'on voudra, je ne veux pas blesser qui que ce soit, qui se sont séparés de nous. Disons catholique orthodoxe. Mettons un trait d'union entre les deux, puisque nous étions unis, n'est-ce pas? Et les autres églises sont apparues beaucoup plus tard, au XVIe siècle. Et plus tard, même. Et alors, quelques-uns de ces catholiques aspirent à une conversion totale, qui va mettre leur vie entière en accord avec les exigences de leur foi. Et parmi eux, l'un des plus célèbres, c'est un compatriote donc de Sulpice, quelqu'un qui vient de Bordeaux, qui est Meropius Pontius Paulinus. Paulinus, Paulin de Nol, dont je vous ai déjà parlé. Il est héritier d'une immense, immense fortune. Il possède des terres immenses. Il est déjà engagé dans une carrière politique qui s'annonce brillante. Et il décide, en 390, imaginez, de renoncer au monde. Il vend tous ses biens, mais c'est ça vaudrait aujourd'hui des centaines de millions de dollars, en faveur des pauvres. Il choisit de mener une vie ascétique. C'est extraordinaire. Ça ébranle tout le monde est bouleversé par la conversion de Paulin de Nol. Il va s'appeler de Nol plus tard, là où il va s'en aller mourir. Puis, il est ordonné prêtre, il se retire donc en Campanie. La Campanie, c'est dans la région de Naples. Il va aller vivre auprès d'un saint très 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 connu, très réputé à l'époque, Saint Félix. Donc il veut aller à la tombe de Saint Félix, à Nol justement, dont il devient par la suite évêque. La personnalité, donc, de celui qui est resté pour la postérité, Paulin de Nol, c'est pas pour rien que je l'en parle, c'est que Paulin avait été aux écoles de Bordeaux, le condisciple de Sulpice, comme je vous ai dit, puis il est resté lié à Sulpice Sévère d'une amitié qui va l'imprégner, et que ni le temps ni la distance n'ont transformé. Par son exemple, par ses exhortations, il a exercé sur la vie spirituelle de Sulpice Sévère, plus jeune de quelques années, une influence certaine, et a failli en faire un vrai moine. D'autre part, les lettres de Paulin de Nol, les seules qui nous ont été conservées d'une correspondance qui s'échangeait régulièrement pendant 10 ans, là, de l'an 395 à 405, ça constitue la principale source pour connaître l'auteur de la vie de Saint-Martin, Sulpice Sévère. Martin, c'est ce qu'on écrit, est le premier non-martyr à être canonisé. Saviez-vous ça? Le premier non-martyr à être canonisé. Jusque-là, en effet, seuls ceux qui avaient effectivement versé leur sang pour la foi pouvaient accéder à cet honneur suprême. Et cela indique pour le moins une popularité rarement atteinte. Grâce à qui? À Sulpice Sévère. Hein? Et dont les traces demeurent dans les lieux qui portent son nom. On répète ici, près de 500 en France, un peu moins. Et les églises qui lui sont consacrées en France, 4000 paroisses portent le nom de paroisse Saint-Martin. On en a ici quelques-unes. Hein. Comment cet ancien soldat originaire de Pannonie. C'est-à-dire, c'est la Hongrie aujourd'hui. C'est un Hongrois. Devenu évêque. Un soldat qui devient évêque. Comment a-t-il pu acquérir une telle gloire? Ben, les textes de la liturgie de la parole mettent l'accent sur sa charité, le jour de la Saint-Martin. Tout a commencé par l'épisode célèbre du manteau dont je vous ai parlé deux fois déjà, je vais vous en reparler encore. L'épisode tellement fameux, hein? Cet épisode du manteau partagé avec un pauvre à Amiens. Parce que quand il est arrivé à Amiens, il faut lire la vie écrite par Félix-Antoine Savard, où il fait la description de ce beau Hongrois, à cheval, avec sa chlamyde, son manteau, et puis ses armes, et entouré d'autres soldats qui se promènent dans Amiens, en France, la ville d'Amiens, et puis les femmes, les jeunes filles surtout, toutes plus jolies les unes que les autres, qui sortent des maisons pour balayer, puis elles balayent, même s'il n'y a pas besoin de balayer, juste pour le voir passer. Il est drôle, Félix-Antoine Savard, il est drôle. Monseigneur Savard, hein? Moi, je vous ai déjà parlé, je lui ai consacré une émission. Le Christ, dit le texte là de La vie des saints de Marcel Driot, là, le Christ lui apparaît en songe la nuit suivante où il a donné son manteau. La moitié. Il dit, Martin, simple catéchumène, m'a recouvert de ce vêtement. Parce qu'il n'était pas encore vraiment baptisé. C'est une belle illustration de la parole du Seigneur dans la parabole du jugement dernier. Ce que vous aurez fait à l'un de ces petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'aurez fait. Moi, quand j'avais parfois le désespoir au cœur et je voulais, au début, ne plus adopter mon fils et le remettre à quelqu'un plus généreux, plus, ou moins égoïste, devrais-je dire, je tombais toujours sur cette parole dans l'Évangile. Ce que vous aurez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'aurez fait. Alors, on change d'idée dans ce sens-là. On dit, OK, Seigneur, OK, OK. Alors, Sulpice Sévère, qui l'a connu personnellement, a retracé sa vie. C'est essentiellement grâce à cette œuvre que cette lumière n'a pas été mise sous le boisseau. L'activité de Martin en a fait une sorte de touche-à-tout. Alors, écoutez bien. Il est devenu moine après son baptême. Il est devenu un temps ermite. Puis après ça, il se retire avec quelques disciples dans le désert de Ligugé. De Ligugé, c'est pour ça qu'il y a un moine de Ligugé qui a écrit le livre dont je vous ai parlé, qui est tout écrit à la main, mais imprimé. C'est très étrange comme livre, magnifique, très étrange. Et puis, il fonde un monastère qui portera ce nom, et donc fondateur du monastère de Ligugé. Qui est toujours là, hein? Ben, allez le voir, à côté de Poitiers. On peut aller à Poitiers, puis on marche. On peut se rendre à pied à Ligugé, c'est pas loin. Puis, Saint-Martin devient aussi le promoteur du monachisme en Gaule. C'est quasiment le père du monachisme cénobitique, c'est-à-dire du monachisme, les moines qui vivent ensemble. Il est également à l'origine du monastère de Marmoutier. Ça, c'est à Tours. Il y a les ruines, là. J'ai visité ça avec un ami qui habite Tours, François Bray, père de 7 enfants, dont une carmélite. Puis il a perdu un fils, 15 ans, qui jouait au tennis, et qui s'est écrasé mort en jouant au tennis. Terrible. Ah, un beau garçon. Pauvre François Bray. Il se passe des choses à Tours. Terrible comme ça. C'est de là que vient la bienheureuse Marie de l'Incarnation, dont je vais vous parler là bientôt. Et puis, donc, il est à l'origine de ce immense monastère de Marmoutier, d'où vont sortir des évêques et des prêtres de valeur. Saint-Martin s'étant plus réformateur du clergé, à l'époque, qui était assez décadent, très sadier. Et puis, il reste moine dans sa manière de vivre, même quand il est évêque. Nommé évêque de Tours malgré lui en 372, il continue ses luttes avec le pouvoir laïque. À cette époque, le paganisme était encore bien vivant dans les campagnes. Il s'emploie donc à l'évangélisation des paysans, si bien qu'on a pu le qualifier d'apôtre des Gaules, l'apôtre de la France, quoi. Il meurt en 397, à peu près. Son biographe, Sulpice Sévère, nous le montre à ce moment. partagé, tout comme l'apôtre Paul, entre le désir de rencontrer son Seigneur et celui de le servir encore sur la terre, mais entièrement soumis à la volonté de Dieu. Si Dieu veut le prendre et le rappeler au ciel, il est prêt à tomber dans ses bras. Si Dieu veut le laisser ici, pour qu'il serre dans ses bras les pauvres et les malheureux, il est prêt. Saint Martin est de ceux qui ont fait la France chrétienne. Et nous, en bonne partie, qui venons de France, nous ne sommes pas plus Québécois que les autres, ça vient d'être redit et redit. Mais nous qui venons de France, la grande majorité d'entre nous ici au pays, eh bien, nous sommes héritiers de ce Saint Martin, qui a fait la France chrétienne. Ce père dans la foi, l'espérance et la charité ne doit pas être considéré comme une sorte de monument qu'on admire. Saint Martin doit être considéré comme un stimulant pour notre propre marche vers Dieu. L'Église orthodoxe le célèbre aussi le 11 novembre. Savez-vous comment ils l'appellent, eux, les orthodoxes? Le miséricordieux Saint Martin. À cause de cette belle vie racontée par Sulpice Sévère, qui a poursuivi ses études à Bordeaux, des études littéraires, très sérieuses, Sulpice Sévère. Il a entrepris une carrière d'avocat qui a fait de lui très vite une gloire du barreau local. C'est un avocat réputé. Il était l'unique héritier d'une riche famille de l'aristocratie gallo-romaine, comme on dit, hein, l'Empire de Rome en Gaule. Il assure encore sa position par un mariage, imaginez, qui l'unit à la fille d'un consulaire et d'une noble dame du nom de Bassula, à laquelle il va écrire une lettre très amusante. Non, très amusant, c'est pas très amusant dans un sens, puisqu'il est question de la mort de Saint-Martin, mais il la taquine. Il lui envoie des petites taquineries au début. Ça, c'est surprenant. À l'avenir qu'on lui promet, étant donné ses premiers succès dans le monde, là, je l'appelle Saint-Sulpice parce qu'il est considéré comme un saint à Tours. Hein. Il est vénéré à Tours comme un saint, ce Sulpice Sévère, cet historien. Eh bien, Saint-Sulpice renonce brusquement à tout le succès qui s'avance devant lui. Il est saisi d'une impulsion soudaine, puis il commence vers 394-95, là, donc à 34-35 ans, à se dépouiller de ses bienfonds, là, de ses propriétés, pour ne plus songer dès lors qu'à l'accroissement, dit-il, c'est ce qu'il écrit, de son patrimoine céleste. Une bonne idée, hein, pour les propriétaires. Vendre leurs propriétés, donner l'argent aux pauvres, puis accroître leur patrimoine céleste. L'exemple de son ami, Paulin de Nol, Saint-Paulin de Nol, la perte précoce de sa femme. Enfin, l'influence de sa belle-mère Bassula, qui, elle, est déjà acquise à un idéal de vie chrétienne sérieuse, ont sans doute acheminé là, progressivement Sulpice Sévère à sa décision héroïque, puis dans l'état d'esprit où il se trouve, le nouveau converti est prêt à reconnaître en Saint-Martin de Tours le maître spirituel dont il a besoin. C'est certainement grâce à Saint-Paulin de Nol qu'il entend parler pour la première fois de l'évêque de Tours. Lui, qui venait de Bordeaux, a eu l'occasion, peu avant 389, de rencontrer Saint-Martin à Vienne. À Vienne, c'est-à-dire, disons, au sud de Lyon. Là. Et c'est là, sans doute, que ce dernier l'avait miraculeusement guéri d'une ophtalmie. C'est raconté dans la vie de Saint-Martin, au chapitre 19. Sulpice Sévère brûle depuis longtemps de l'envie de connaître Saint-Martin, qu'il appelle le Saint-Homme, lorsqu'il se décide à prendre le chemin de Tours. Et cette rencontre, c'est dans le nord de la France, Tours, hein, ou à peu près dans le nord. Et cette rencontre peut être suivie de quelques autres, et puis ça fait de ce jeune aristocrate lettré, qui est Sulpice Sévère, le disciple fervent de Martin. Il n'arrêtera plus maintenant de célébrer Saint-Martin. De son vivant d'abord. Oui, de son vivant, il va écrire des choses. Puis après sa mort, qui survient en novembre 397. La mort de Saint-Martin. Sulpice Sévère vit dès lors retiré dans son propre domaine, dans le sud de la France, près de Toulouse, qu'il appelle Primuliacum. où il mène une vie ascétique, une vie de moine. Les esclaves qui se sont convertis à son exemple, les amis qui partagent sa ferveur à l'égard de Saint-Martin, y habitent des cellules. Tout le monde couche sur des paillasses. Bon, c'est pas très spécial parce que je pense bien que la plupart des gens couchent sur des paillasses. Savez-vous que ça se fait encore? Quand je suis entré à la Grande Chartreuse en 1950, simplement un essai, là, on couchait sur des paillasses. C'est dur, c'est épouvantable, c'est de la paille. Puis ça se concentre et puis ça fait comme des boules. C'est loin d'être aussi confortable qu'un simple matelas ordinaire. Donc, ces gens-là couchent sur des paillasses, puis comment s'habillent-ils? Mais comme les moines d'Orient. De quoi? De pallium en poil de chameau. Un pallium, c'est un petit vêtement qui ne fait que cacher les parties que vous comprenez. Et puis, tous communient, là, dans le culte du souvenir de Saint-Martin, et Sulpice Sévère fait édifier deux basiliques, dont l'une abrite la dépouille du plus fidèle disciple de Martin, qui s'appelle Claire, C-L-A-I-R, un nom d'homme. Et entre elles, là, entre les basiliques, il construit un baptistère où il fait représenter, pas sur des mosaïques, là, Martin puis Paulin, les deux grands saints. Et qu'on n'aille pas imaginer Primuliacum, cependant, comme un monastère isolé du monde par une sévère clôture, là, puis régi par une règle stricte. Non, c'est pas un monastère de genre, là. La rupture avec ce qu'on appelle le siècle, le monde, les gens du monde, n'est pas ici aussi totale que celle qui a été consommée par Saint-Paulin de Nol, en Campanie, près de Naples. Sulpice Sévère n'a pas renoncé au voyage, lui. À la belle saison, il multiplie ses pèlerinages à Tours, il va dans le nord de la France, donc dans les lieux sanctifiés par Saint-Martin, pour compléter son information auprès de ceux qui ont connu ce saint qui est disparu. Et l'austérité de l'existence à Primuliacum, près de Toulouse, est tempérée par sorte de charme qu'offre le séjour d'une grande et riche demeure d'aristocrate. Sulpice Sévère y reçoit la visite donc de châtelains des environs, de voyageurs qui viennent de Tours ou d'Orient. Il est secondé par de nombreux domestiques. Il n'oublie quand même pas les devoirs qu'impose à un hôte donc la courtoisie mondaine, des entretiens pieux auxquels s'adonne cette petite société qu'il a établie autour de lui, autour du Christ plutôt, je devrais dire. Société choisie, on s'occupe quand même de culture classique. Et les membres ont été nourris durant leur jeunesse de cette culture, puis ils continuent. Il y a un certain humour aussi. Je vous en ai parlé, cet humour qu'il a dans sa lettre à sa belle-mère. Sa belle-mère, Bassoula. Et ça caractérise plus particulièrement les habitants de l'Aquitaine, qui est réputée, l'Aquitaine, cette région de Toulouse, pour être des gens joyeux. Je crois bon de signaler, pour ceux qui veulent aller très loin dans l'étude de Saint-Martin, que la revue de l'Université Laval a publié en septembre 53, puis en octobre 53, deux articles énormes, intitulés « Profil de Saint-Martin » par Don Pierre Minard. Bénédictin. C'est considérable, c'est une recherche de bénédictin, c'est le cas de le dire. On peut se demander qu'est-ce qui lui est arrivé à notre Sulpice Sévère par après. Eh bien, c'est dans ce milieu qu'ont été élaborées, là, en Aquitaine, les œuvres de Sulpice Sévère, presque toutes consacrées à son héros Martin, la première en date et la vie de Saint-Martin, qui a été conçue et publiée du vivant même de l'évêque de Tours. C'est assez curieux, un peu avant le printemps 397, l'année de la mort de Saint-Martin, qui est mort à la fin de l'année. L'auteur s'est partiellement inspiré de l'exemple de la vie de Saint-Antoine. Saint-Antoine, ce grand saint du désert, hein, des pères du désert. Pas Saint-Antoine de Padoue, ça n'a rien à voir. Et la vie de Saint-Antoine avait été écrite par l'évêque d'Alexandrie, dont je vous ai déjà parlé aussi, Athanase, Saint-Athanase. qui a tant pourfendu les Ariens, ceux qui niaient la divinité du Christ. Et ça avait été, cette vie avait été écrite dans la première moitié du 4e siècle, toujours le même siècle, pour célébrer le fameux solitaire, donc, de la Thébaïde, le désert de la Thébaïde, où a vécu saint Antoine, qui est l'un des fondateurs du monachisme. Mais dans son inspiration, on voit que se mêlent aussi les traditions de la biographie antique, classique, telle que la concevaient les auteurs païens, puis les traditions des écrits chrétiens, dont il était imprégné personnellement, lui, Sulpice Sévère. Sous sa simplicité apparente, le récit est très, très bien composé. C'est une belle vie, ça se lit très bien, même encore aujourd'hui, on se dit, c'est pas possible, après 1600 ans. Ben oui, ça se lit toujours. Extraordinaire. Et les étapes successives de la vie de Martin, l'exposé des vertus de l'évêque, sont présentées sous forme de petits panneaux descriptifs. C'est groupé en triptyque, ça évoque déjà, par leur agencement, un art du vitrail, on pourrait dire. Puis il y a trois lettres que Sulpice Sévère adresse à de fervents admirateurs de Martin. Il y a le prêtre Eusèbe, le diacorel, puis sa propre belle-mère Bassoula. Ça appartient au genre de la littérature des lettres, la littérature épistolaire. Elles sont destinées d'ailleurs à être diffusées comme des lettres ouvertes pour compléter la biographie de Saint-Martin. Et puis, la première lettre est consacrée à réfuter sur un ton violemment polémique là, les propos d'un lecteur incrédule de la vie. Il relate un miracle encore inédit. Et puis les deux autres lettres, elles évoquent la mort toute récente de Martin. Pour apporter de la consolation au diacre Aurel, d'abord, celui auquel il écrit, et c'est d'abord un panégyrique du défunt de Saint-Martin qui confère à Saint-Martin une sorte de canonisation. Par l'intention de sa belle-mère, Bassoula, il y a une relation pathétique de la mort et des obsèques du héros. C'est assez beau, ça. Et plus nettement que la vie ou les préoccupations de l'historien, de ce tempère encore, l'ardeur, il est dévot. Hein. Ces trois lettres nous font assister au début d'un culte martinien, comme dit M. Fontaine, qui a beaucoup écrit sur Saint-Martin. Je voudrais vous dire aussi qu'avant sa conversion, sans doute, la Sulpice Sévère, alors qu'il était... il était chrétien, mais il n'était pas converti à la vie ascétique. Il avait entrepris la rédaction d'un ouvrage fantastique d'une nature très différente, ce sont les chroniques. C'est une histoire du monde. Il s'agit donc d'un résumé en deux livres de l'histoire universelle depuis la création jusqu'à l'an 400. Et il veut établir une chronologie historique précise pour connaître l'antiquité du monde, puis évaluer la proximité de l'échéance dernière. On y voit, à la fin du deuxième livre, qui a été achevé entre 400 et 404, les préoccupations qu'il avait pour Saint-Martin. Ça transparaît. Il accorde un long développement qui est disproportionné à l'égard de tout le restant de l'ouvrage, à toutes sortes de choses qui tournent autour de Saint-Martin. J'aimerais vous lire, avant de terminer, ce que Sulpice Sévère écrit au sujet de la conversion, pas de la conversion, mais disons de cet événement qui a porté Saint-Martin au sommet de la mémoire des chrétiens à travers les siècles. C'est la charité de Saint-Martin, près de la porte d'Amiens. Il donne la moitié de son manteau à un pauvre, puis reçoit le baptême. Voici ce qu'il écrivait, il y a donc 1600 ans. Un jour où il n'avait sur lui que ses armes et son manteau militaire, fait d'une seule pièce, au milieu d'un hiver plus rigoureux qu'à l'ordinaire et si rude que bien des gens mourraient de froid, à la porte de la cité des Amiens, Martin rencontra un pauvre nu. Le malheureux avait beau prier les passants d'avoir pitié de lui, tous passaient outre. L'homme de Dieu, voyant que les autres n'étaient pas touchés de compassion, comprit que celui-là lui était réservé. Mais que faire? Il n'avait rien dans la chlamyde dont il était revêtu. Il avait déjà sacrifié le reste pour une bonne œuvre analogue. Alors, saisit son épée, coupe le manteau par le milieu, en donne une partie aux pauvres, se drape de nouveau dans le reste. Parmi ceux qui l'entouraient, quelques-uns se mettent à rire, le trouvant laid, avec son habit tronqué. Mais beaucoup d'autres, plus sensés, gémissent profondément de n'avoir rien fait de semblable, alors qu'ils avaient plus de vêtements et qu'ils auraient pu vêtir le pauvre sans se mettre à nu. La nuit suivante, comme il dormait, Martin vit le Christ vêtu de la partie de sa chlamyde dont il avait couvert le pauvre. On l'invite à regarder attentivement le Seigneur et à reconnaître le vêtement qu'il a donné. Puis à la multitude des anges qui l'entourent, il entend Jésus dire d'une voix éclatante, « Martin, encore catéchumène, m'a couvert de ce vêtement. » Vraiment, le Seigneur se souvenait ici de ses propres paroles. Il avait dit auparavant, « Tout ce que vous avez fait pour l'un des moindres de ses nouveaux frères, vous l'avez fait pour moi. » Maintenant, il proclamait qu'en la personne d'un pauvre, il avait été vêtu. Et pour confirmer le témoignage accordé à une si bonne œuvre, il daignait le montrer dans l'habit même qu'avait reçu le pauvre. Cette vision n'enorgueillit pas le bienheureux. Il ne céda pas aux entraînements de la gloire humaine, mais il reconnut la bonté de Dieu dans son œuvre. Comme il avait 18 ans, il vola au baptême. 18 ans qu'il avait. Je le rappelle pour les jeunes qui écoutent là. Cependant, il ne renonça pas aussitôt au service militaire. Il se laissa vaincre par les prières de son tribun, qui était son compagnon de tente et son ami. Celui-ci, une fois écoulé le temps de son tribunat, promettait de renoncer au monde. Martin fut tenu en suspens par cette attente pendant 2 années environ. Après qu'il eut reçu le baptême, il resta soldat, mais seulement de nom. Comme vous voyez, c'est très bien écrit. 1600 ans par Sulpice Sévère. Sulpice Sévère, qui est considéré comme un saint dans la région de Tours. Et on dit qu'il est mort au début du 5e siècle, vers l'an 410. Et selon d'autres, Sulpice Sévère, qui avait de grands biens, a tout laissé, évidemment, à ceux qui voulaient y vivre comme des moines. Si vous désirez une cassette audio de cette émission, vous téléphonez à Marc-Alexandre à 374-3785. 374-3785. Je voulais vous lire la fin de l'évangile du jour. Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle. Celle qui vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son empreinte.